Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir Money Time, saison 5, épisode 20, avec autour de la table notre bande de chroniqueurs. Et on va commencer par la droite avec toi mon Fab, comment tu vas bien ?
Eh bien, ça va très très bien, merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et plaisir de vous retrouver sur les ondes.
Ouais, à côté de toi c'est Jérém, salut mon pote.
Salut et bonsoir à toutes et à tous et je souhaite à toutes une bonne émission.
Et à côté de toi c'est Jean-Marc. Jean-Marc, comment tu vas bien ?
Eh bien ça va bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et j'ai hâte d'être à mercredi pour cette superbe demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'AS Monaco.
On en reparle dans notre agenda. Alors au sommaire, eh bien on va parler de nos Canaries avant justement cette demi-finale de Coupe de France, savoir où on en est en championnat. Si on va aller chercher les places européennes, bien sûr. Et puis, après le football, il y aura la rubrique des clubs nantais. On fait le point pour tous les clubs qui étaient sur le pont ce week-end dans leur championnat respectif. Une page vélo qui revient aujourd'hui dans Chasse-Patate. On parlera des classiques de ce mois de février. Et enfin, dans Multizone, on revient sur le reste de l'actu. Il y aura du rugby, du ski, du tennis et du golf. Voilà, allez, on est parti. C'est le Prune Football Club.
Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on revient sur la 26e journée de Ligue 1, les garçons, et le score qui nous intéresse en priorité, c'est celui des Canaries qui étaient en déplacement à Saint-Symphorien à Metz. Fabrice.
Oui, ben bon, on a vu une équipe de Nantes voilà, qui sont déplacées, il y avait déjà 5 absents, et dont
le coach.
Le coach, positif Covid, mais on s'est rendu compte que voilà, on était pas là pour faire un non-match, mais en face de nous, on avait une équipe de Metz qui a besoin de points, et que eux, ils ont fait un non-match, et ben nous, du coup, on a fait un non-match aussi, on a fait sortir Blas et Colomani, sur une deuxième minute, parce qu'on prépare le match au Monaco, demi-finale de Coupe de France, je pense que là, la tête était ailleurs, je pense que pour tout le monde, la tête était ailleurs.
Un 0-0, pas très joyeux, mais avec quelques occasions pour les Nantais, dont une dernière pour Khalifa Koulibaly en fin de match, d'une tête qui aurait pu aller chercher le cadre, mais qui l'a raté.
Moi, j'ai eu un commentaire qui était un peu impressionnant, c'est j'espère que la sieste pour les Nantais et les Messins s'est bien passée. Et c'est vrai que c'est un non-match, mais on a pris un point à l'extérieur, c'est la première fois qu'on prend un point depuis 2022, depuis la trêve, à l'extérieur. Bon, voilà, les Messins, eux, sont un peu plus mal, mais...
Relégables,
voilà. Bon, maintenant, il y a des matchs à venir qui vont être compliqués, et il va falloir... On a 39 points, je pense que voilà, c'est fond.
Sur l'agenda, donc on l'a dit, Monaco, ça c'est la Coupe de France, c'est mercredi pour une place au Stade de France. Alors on va y croire très fort. Et puis la suite, ça sera Montpellier, une équipe qui va falloir mettre à distance, puisque c'est un concurrent direct aussi pour les places européennes.
Évidemment, Montpellier, ouais.
Et en sachant que Nantes a perdu Marcus Coco sur blessure, victime d'un tacle de Vincent Pajot.
Oui, qui vient.
Et ça serait une fracture du péroné pour Coco.
C'est clair, c'est une fraction du période.
Du coup, tacle complètement idiot.
Ça, donc fin de saison, sûrement compromise pour Marcus Coco.
Ouais, bah la transition était bonne. On a parlé de Monaco, de Montpellier, pardon. Montpellier, c'est le prochain match qui nous intéresse, hein, puisque les Montpelliérains recevaient nos voisins rennais, Jérém.
C'est ça, tout à fait. Montpellier qui recevait Rennes et c'est parti tambour battant grâce à encore un grand Matin Tarier dès la 8e minute qui ouvre le score. Suivi ensuite de Benjamin Bourigeaud à la 15e minute. Et là, on se disait que Rennes allait encore faire un festival en première mi-temps et dans ce match. Et qui ont été rattrapés par. Des valeureux Montpellierains avant la mi-temps par Wahi sur un superbe but. Et après, qui finalement Montpellier qui a égalisé à 49e minute par Oyongo. Et c'est finalement Gaëtan Laborde qui a sabordé les Montpellierains sur un penalty à 50e minute. Et à suivre un dernier but de Lovro Maier sur une super action collective de Rennes encore et toujours. Et coup Rennes se maintient 4e et reprend la place devant Strasbourg. Et avec un goal average de plus de 26 buts.
Ouais, oui. Rennes qui revient quatrième.
Mais c'est ce qui nous fait mal au cœur, nous, en tant que dire, le dire, l'avouer, et dire que Rennes, pour moi, c'est l'équipe, mais vraiment, qui me fait plaisir cette année, quoi.
C'est ça.
C'est vraiment l'équipe qui a du jeu, qui. Ils font des faux pas, on ne sait pas pourquoi. Ils font des faux pas, des fois, sur des matchs.
Ils ont des pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis.
Voilà. Mais c'est l'équipe qui cartonne, quoi. C'est l'équipe qui cartonne. On se demande pourquoi ils ne sont pas derrière le PSG, quoi. Ou devant le PSG.
Bah, parce qu'ils ont fait des matchs, des longs matchs bêtes contre Nice, contre Monaco, contre Lens. Et
voilà.
Puis, voilà.
Ils ont fait des longs matchs. Mais là, c'est impressionnant parce que je ne sais pas ce que t'en penses, Jean-Marc, mais Rennes, c'est pour moi. Rennes et Nice, mais c'est les deux équipes qui me font plaisir.
Je vais te dire, il y a juste un truc à regarder. Si tu regardes dans les stats, Rennes, c'est plus 26. C'est juste derrière ou juste devant Paris au niveau de
Strasbourg. Et même Strasbourg.
Et c'est deuxième attaque de Ligue 1 et voilà. c'est la quatrième meilleure défense de Ligue 1.
Et tout est dit pour moi. Voilà. Rien qu'avec ça, tout est dit, et sur le fait qu'il y ait... Et puis de voir des joueurs qui revivent comme un Martin Terrier, je trouve ça très bien. Même on retrouve aussi... le Martin Terrier de Strasbourg.
Même aussi Jonas Martin et Baptiste Santamaria, l'ancien Angevin, qui sont à nouveau à leur niveau d'antan et qui même au point de progresser.
Bon, évidemment, le championnat n'est pas ce que jouer. 62 points, ça va être un peu.
Ben, savoir qu'est-ce qu'ils arriveront à accrocher comme place, c'est la grosse question. Après, je ne sais pas si on aura le temps d'en dire un mot. C'est ce qui l'équipe qu'ils ont tiré aussi en Europa Conférence, puisqu'ils ont tiré Leicester, qui était l'équipe la plus grosse de la compète.
Ouais. Mais qui Leicester en championnat n'est que 12e et qui font aussi bien de très bons matchs que de très mauvais matchs.
Oui, oui, ben c'est un peu Rennes, mais à un classement différent, quoi.
Voilà.
Allez, on passe aux autres voisins. Il y avait un derby d'ailleurs en Bretagne, Brest qui recevait Lorient pour la victoire des Merlus 1-0.
Oui, grâce à deux choses, un pénalty et puis le but signé, je ne sais plus qui.
Koné,
voilà.
À la 60e minute. Et qui Brest, hein, qui ont perdu leur capitaine sur expulsion, Brendan Chardonnay, qui revient de blessure.
On lui fait un coucou
et
à Brendan.
Qui donne un peu d'air.
Ouais, le voisin Angevin, lui, bah, ça continue. Hein, encore une défaite, cette fois-ci. Ah, et mon copain, face à Lens.
C'est ça.
Double boulette de Petkovic.
Ouais, très de belles boulettes qui étaient soi-disant gênées par le soleil, mais à mon avis, c'était pas que le soleil.
Ouais, il peut mettre une casquette aussi, hein, des lunettes, tout ce qu'il veut. Dommage pour Angers qui devait se relancer, qui avait ouvert le score.
Par Foggini.
Et puis, bah, deux boulettes de Petkovic plus tard, c'est Lens qui l'emporte.
Et en plus de boulettes que sur coup, oui, la 14e minute qui donne un coup de son camp de Mendy. Et 3 minutes plus tard, c'est Jonathan Clauss qui finit une belle action et la belle bourre de Petkovic.
Et nos amis angevins qui restent sur 4 défaites d'affilée.
Ouais, ça fait mal. Hein.
Ça fait mal quand même. Parce que là, ils étaient pas mal et d'un seul coup, là, bim, ça redescend. Et
les Bianconero, comme on les appelle ici.
C'est ça. Et du coup, c'est qu'au classement, Angers est sur la dernière place, ça se resserre.
Bah, Saint-Té qui a failli faire un gros coup. Il menait 1-0 au Parc des Princes, mais Mbappé les a vite calmés.
Tout à fait. Et c'est vrai que là, du coup, je reviens au classement. Entre Brest qui est 12e et Bordeaux qui est dernier, il n'y a que seulement 10 points d'écart.
Oui, mais ça va jouer à. Bon, il reste un. Beaucoup de matchs.
12 matchs.
Mais je pense que derrière, ça a commencé à souffrir un peu quand même.
Ouais.
Ouais, mais c'est pas souvent que tu vois, quand tu regardes le classement et que tu vois que les 4 derniers sont ex aequo.
Oui, à 22 points.
C'est ça.
Et Lorient juste 2 points devant.
On arrive il y a 2 ans, en 2019, on était. Bon, il y avait.
Ah, on
était. Poitiers qui avait 12 points ou je sais plus. Et c'est vrai qu'ils étaient largués déjà. Et maintenant, c'est vrai que là, on est très proche du 8e, du 15e ou du 16e, un truc comme ça. Quoi.
C'est ça.
Il faut faire attention.
Ouais, mais on est quand même devant 3 des 5 derniers champions de France. Hein. On pense à Lille, à Lyon et à Monaco.
C'est vrai.
Tout à fait. Et Monaco qui va de plus en plus mal, qui a encore perdu hier sur encore sur un. Comment dire ?
Bah, Monaco avait ouvert le score, voilà. et puis ils ont raté complètement leur fin de match. Est-ce qu'ils étaient déjà eux aussi à la demi-finale qui arrive très très vite ? En tout cas, ils ont oublié de finir le match et résultat, ils perdent 2-1 contre Reims dans les arrêts de jeu.
Avec un but contre son camp de Voland et encore un carton rouge, deux cartons rouges affilés en deux matchs pour Monaco.
Ouais, donc, rien ne va plus au Rocher.
Le championnat français qui concède le plus de cartons rouges cette année. 69 cartons rouges cette année.
Ouais, c'est énorme.
Bon, on en a fini avec le championnat. On revient deux minutes sur le résultat de Lille en Champions League. Avec une défaite 2-0 à Stamford Bridge, est-ce que c'est terminé pour les Lillois dans cette compétition ?
Oui, c'est mal barré, mais il faut jouer tout à fond.
La magie de la Coupe d'Europe, c'est que rien n'est joué avant le coup de sifflet du match retour.
Bon, mais ça reste le champion en titre.
Mais ça va être compliqué pour eux.
On fait un point sur l'étranger et on commence en Angleterre.
Oui, alors en Angleterre, un petit instant s'il vous plaît.
C'était la finale de la Cup.
Finale de la Cup, Carabao Cup entre Coupe Chelsea Ligue, et Liverpool.
Liverpool.
Très gros match intense des deux équipes avec plusieurs buts annulés de part et d'autre, qui s'est finalement soldé par une séance de pénalty interminable qui est juste avant la séance de pénalty.
Alors,
le coach
Jérémy, explique-nous.
Tourelle qui a voulu.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Tourelle ? Pourquoi il sort Mendy ?
Qui a sorti Mendy, qui était sur un nuage, qui a fait un très grand match avec beaucoup d'arrêts hyper décisifs, dont un double arrêt sur Mané et Anderson, c'était absolument infaisable. Et il décide de mettre Kepa et.
Il a tenté un coup tactique, et puis il s'est craqué. Il pensait pas que ça arriverait jusqu'au gardien comme tireur, et puis là, Kepa, je sais pas ce qu'il a visé, mais.
Quel coup tactique il a voulu faire ? Sortir Mendy, alors qu'il gagne la canne,
Mais des fois, ça se tente.
C'est ça, mais en tout cas, s'il y a un coup.
Expliquez-moi, les gars.
Non, mais des fois, ça se tente, mais là, je l'aurais pas tenté.
Mais en tout cas, c'est le
coup. Donc, c'est une grave erreur.
Mais les gars, s'il y a un tactique au niveau des gardiens, c'est ce qu'a fait Jurgen Klopp en titularisant son jeune gardien, quelle erreur à la place de Alisson, qui lui a fait un match parfait.
Voilà. Après, il ne faut pas oublier que c'est la Coupe de la Ligue. Hein, donc, on ne va pas non plus. Là où en France, on l'a démoli parce qu'on n'en voulait plus, on ne va pas glorifier la Coupe de la Ligue anglaise.
Voilà. Alors, le score, c'était bien 0-0, 11 tirs au but à 10.
C'est ça.
C'est un record, non ?
Pour la Coupe de la Ligue anglaise,
oui, c'est un record.
Ça dépend, Jean-Marc, ça leur apporte des équipes en Coupe européenne l'année prochaine, peut-être aussi.
Bon, c'est en Coupe de l'Europe conférence, c'est pour un truc de bricolage.
Ouais. Magasin de bricolage.
On reste en Première Ligue, cette fois-ci en championnat. Coup, Leeds qui s'incline 4-0 sur sa pelouse en Tottenham.
Et du coup, qui met fin à la très belle aventure de Marcelo Bielsa à Leeds.
Le monsieur à la glacière.
Voilà, et qui a été remercié. Mais tout le monde de club l'a chaleureusement remercié. Tout le monde a été fait au départ. Mais le président de Leeds ne pouvait pas faire autrement. Et ce sera Jess Marsh, l'ancien coach du groupe Leipzig et Salzbourg du Red Bull, qui va prendre les rênes dès aujourd'hui. Théoriquement, ça n'a pas encore été officialisé, mais il devrait prendre les rênes dès aujourd'hui, ce soir, les rênes de Leeds.
Chapeau à lui, deux ans et demi. Hein.
Jérémy, Jean-Marc, je voulais poser une question. Bielsa, il a encore une place dans un championnat européen, dans un club européen ?
Ça peut être compliqué, mais il faut que ça soit un club qui puisse lui donner le temps de. Et qu'il ait envie, lui, de rester suffisamment longtemps. Ouais. C'est complexe.
Et,
hein.
Et comme a fait Leeds avec ses deux trois belles années en Championship, où il a fait remonter magnifiquement. À sa première année en Première Ligue, de la remontée, où il finit 9e. Et puis là, l'effet Bielsa, et je pense que c'est dû au niveau largement physique et mentalement que les joueurs de Leeds ont lâché, malgré le très beau jeu de l'équipe de Leeds.
Ouais, parce que là, pour moi, il est un peu plus sur la descendante que sur.
Moi, je trouve que déjà qu'il est tenu 2 ans et demi, c'est une perf.
Ouais, déjà, ouais.
Quand non, on connaît
3 ans et demi.
Ouais, Jérémy a dit.
Il avait commencé en D2, hein, c'est ça.
Oui. Deux années en D2 et après en Première Ligue.
Ouais.
On peut s'inquiéter juste pour Ilan Meslier, le gardien.
L'ancien gardien Lorientais.
L'ancien Lorientais. Parce que du coup, il aura pu Bielsa pour le protéger, donc il pourrait se retrouver rapidement sur le banc.
C'est ça, et sachant que là, quand même, sur ce mois de février, il a encaissé 20 buts record en première ligue.
Avec quelques boulettes.
Voilà. Allez, on enchaîne sur les résultats. Le leader City qui s'impose à Everton et qui garde, bien sûr, hein, la tête du championnat.
Voilà, grâce à Phil Foden en fin de match. Et ça fut compliqué pour les Citizens et qui reprennent 6 points d'avance sur Liverpool. Mais Liverpool.
Qui ne jouait pas, un match mercredi face à Arsenal.
Voilà.
Pour les Reds.
Et qui vont sûrement revenir à 3 points de City.
United qui piétine, hein, avec ce 0-0 face à Watford.
Voilà, United qui l'ombre de lui-même depuis l'arrivée de Rangnick.
Quatrième, toujours qualifié pour la Ligue des Champions, mais attention, voilà, parce qu'il y a un peloton qui arrive derrière, de 40 points là, qui arrive fort.
Surtout West Ham qui revient encore fort, qui a battu un concurrent direct pour les classements, pour les monteurs européennes.
Wolverhampton.
Voilà. Et but de Thomas, du Tchèque Thomas Usek.
Ok pour l'Angleterre, allez, d'autres résultats rapidement dans les autres championnats.
Oui, et encore, on va aller en Allemagne avec nos Français encore magnifiquement brillé. Tout d'abord, grâce à Moussa Diaby avec Leverkusen qui a porté Leverkusen à lui tout seul quasiment, qui a fait un doublé et c'est lui qui a donné la passe à Yacine Alli pour Lucas Alario.
Quelle perf de Moussa Diaby quand même à Leverkusen.
Voilà. Et encore.
Benoît Nkunkoud. Non.
Christophe Nkunku
qui
l'offre la victoire à Leipzig en fin de match à la 90e minute. Il en est à son 15e but cette saison avec le Leipzig.
Si c'était Benoît, il l'aurait marqué de la main.
C'est ça.
La victoire du Bayern sur le terrain de l'Eintracht de Francfort.
C'est ça.
1-0.
Et Dortmund qui piétine aussi et qui font un nouveau match nul face à Augsbourg. But de Thorgan Hazard pour les Borussen et deuxième but de Sorensen Badze pour Augsbourg.
Et la victoire de l'Union Berlin 3-1 face à Mayence sur le terrain du vieux Forestier.
Allez, rapidement en Espagne, on s'intéresse au Real dans son derby face au Rayo.
Exactement. Exactement.
Carton du Barça, quoi.
Victoire du Real 1-0, pardon. But voilà. De Karim Benzema à la 83e.
C'est ça.
Allez, on part au Barça, Fabrice, puisque tu avais envie de nous parler d'Ousmane Dembélé.
But de Benzema au Real. Mais voilà, on est arrivé sur le Barça et enfin le Barça.
Ça va mieux, hein,
Dembélé est important. Parce qu'il a fait un match extraordinaire.
Il rentre en deuxième mi-temps, il marque un but et il fait deux passes décisives pour De Jong et Suzu, une super passe décisive, un caviar pour le retour de blessure de Memphis Depay.
Et ouais. Aubameyang qui marque encore, qui s'acclimate vraiment très très bien depuis son transfert d'Arsenal.
Aubameyang, c'est 5 buts en 3 matchs.
Ouais, ça va bien.
C'était la personne qui manquait.
Et Dembélé, j'en marque toujours transférable ou pas?
Oui, bon après, mais qu'il aille au bout de sa saison, il verra bien.
Hein. Et oui.
Après, voilà, il y a des trucs qui se sont dit. Bon, après, il faut peut-être pas trop écouter, il faut peut-être laisser voir, et puis on verra ce que ça donne. À noter la victoire de l'Atlético Madrid 2-0 face au Celta Vigo.
Et Colchoneros qui s'impose grâce à un doublé de Lodi.
Et le match de la journée, c'était le derby sévillan entre le FC Séville et le Betis Séville.
C'est ça, remporté par Séville et Betis qui malheureusement perd Nabil Fekir sur blessure.
Oui, exactement ce que j'allais dire. Oui, le FC Séville qui bat le Betis 2-1.
Ouais, moi j'avais envie qu'on parle de la victoire de Villarreal sur l'Espagnol 5-1 parce qu'il y avait un quadruplé dans ce match.
Quadruplé de
Yérimi Pino.
Voilà, Yérimi Pino en 53 minutes.
Pas mal pour lui.
Il a seulement 19 ans.
Ouais, et au classement, le Real devant les deux Séville et le Barça. L'Atlético qui revient dans la course à l'Europe, hein, ex-aequo avec le Barça avec 45 points. Championnat passionnant cette année en Espagne. Hein.
Tout à fait.
Allez, on termine rapide avec l'Italie.
Et l'Italie, le AC Milan qui stoppe encore sa course à cause d'un match nul face à l'Udinese. Et qui l'Inter fait de même match nul et qui voit Naples repasser devant au classement grâce à la victoire des Napolitains face à la Lazio de Rome.
Allez, chassé croisé en tête de Serie A. Là,
voilà, hein. Donc ça se relance un tout petit peu et c'est ce gros Naples qui est premier à 57 points Milan qui est premier ex aequo à 57 points, mais à différence de buts, ils sont deuxième. Et Koulinter du Milan qui reste troisième à 55 points.
Championnat qui va être très serré.
Ah, course à 3 là pour le Scudetto.
Et la Juve qui revient quatrième à 50 points.
Ah oui, ça sera dur de coiffer tout le monde, mais on va attendre. On va attendre, on sait jamais. Il reste 11 journées en Italie. On a été complet sur le foot. Allez, on passe à notre rubrique score en stock. On parle évidemment des résultats des clubs nantais.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer avec les Neptunes. On parle de Han, bien sûr. Les Roses qui recevaient ce week-end plan de cul, Jean-Marc.
Exactement. Les Neptunes qui du coup étaient entraînés depuis ce week-end par Elle Thompson, puisque Guillaume Sorina a été remercié. C'était mardi. Et assisté du retour de Mathieu Lanfranchi comme assistant. Et ben les Nantaises ont eu un petit peu de mal à rentrer dans le match, puisque Plan de Cuc a même mené de 2 buts au quart d'heure. Mais grâce à Nathalie Hagman, qui est auteur de 8 buts, entre autres, les Roses mènent d'un but à la mi-temps 15-14. Et malgré une belle résistance de Plan de Cuc, eh bien les Nantaises vont faire la différence dans le dernier quart d'heure, grâce à ces 2 pivots, Manon Loquet et surtout Ondono, qui réalise un 7 sur 7. Nantes l'emporte 33-26 et on écoute Ondono. Donc avec Ryan Ondono, après cette très belle victoire contre Plan de Cuc, personnellement un 7 sur 7, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match ?
Bah, c'est un match qui a été un petit peu long au démarrage. En première mi-temps, on est un petit peu pataugé, un petit peu galéré, un peu retombé dans nos travers. Puis en deuxième mi-temps, on s'est un peu plus lâché et on a mis ce qu'il fallait, les ingrédients, pour pouvoir faire un bon match et finir sur une bonne note.
Vous avez douté quand vous avez vu Plan de Cuc que revenir à un but en deuxième ?
Honnêtement, non, parce qu'on savait qu'il fallait s'appuyer sur une bonne défense. Comme Elle nous l'a dit, un match c'est 60 minutes, il ne faut pas s'attendre à prendre les rênes tout de suite. Et puis des fois ça se passe comme ça, comme contre Besançon, des fois c'est un peu plus lent, c'est un peu plus long. Donc il faut l'équipe qui a gagné ce soir, en tout cas c'est celle qui a été le plus constante et qui a joué jusqu'à la fin, jusqu'au bout.
Comment s'est passé cette semaine après la défaite face à Lubin et...
Bah, ça a été compliqué parce que déjà, d'une part, on était très déçus de la défaite, de ne pas se qualifier en quart de finale. Après, on a fallu digérer parce qu'il faut avancer. Il nous reste d'autres objectifs, dont le championnat, la Coupe de France. Après, on a eu un changement de coach aussi, donc qui n'est aussi pas facile à accepter. En tout cas, à vivre. Après, qu'on l'accepte ou pas, c'est comme ça. Et puis, avec Elle, ça se passe aussi bien. Donc, voilà.
Et du coup, au classement, les Nantaises sont quatrièmes, à 9 points de Metz et à 3 points de Paris-Brest. Au programme, du coup, il y a un petit break, puisqu'elles rejoueront, elles se déplacent le 12 mars à Celles-sur-Belle et elles reçoivent Chambray d'abord, le 16, Chambray. Coupe de France, et puis le 20, ça sera la réception de Paris 92.
Ouais, voilà. Paris pour encore la lutte pour les places européennes.
Aller chercher une quatrième place pour les play-offs, pour être bien placé en play-offs.
En principe, pour les 5 premiers du championnat, c'est l'Europe. Hein, donc on espère toujours que les Neptunes se maintiendront dans le haut du classement. On passe aux garçons, les Violets, en déplacement à Istres.
Alors, il y avait double match. Il y avait d'abord Lemgo en Coupe d'Europe avec un match nul, 37 bon nul, partout. Ouais. Dommage, parce qu'ils ont mené tout le match. Et puis, dans les dernières minutes, Lemgo vient égaliser à 37 partout. Du coup, au classement, Nantes ne fait pas la bonne affaire, donc ne revient pas sur Benfica et GOG. Et est troisième à deux longueurs de ces deux équipes.
On rappelle les 4 premiers qualifiés dans cette
Après, il faut essayer de finir le mieux possible. Pour
le mieux possible, ouais, mais on n'est pas effrayé par les premiers de groupe, hein, qui n'ont jamais joué de Final Four, hein, alors qu'on en a fait deux. Donc,
c'est vrai aussi. On peut le voir comme ça, oui.
On va avoir la confiance. Hein,
et du coup, Nantes se déplaçait à Istres, c'était vendredi soir.
Ouais, il fallait enchaîner encore, hein, une 7e victoire de rang pour Nantes en championnat.
Et victoire 32-28 face à Istres, très bon match.
Avec un grand Nielsen hein, qui a fait le job, hein. 16 arrêts.
Exactement, 16 arrêts. Une équipe qui a bien géré son match hein, et puis qui devait de toute façon l'emporter puisque dans le même temps, Aix a gagné. Et qu'au classement, ils sont toujours à égalité de points derrière Paris.
La lutte continue, on imagine que ça va se jouer entre les deux équipes, et bien à Nantes. Oui, hein.
Exactement. Alors, prochain match.
Pour Aix, c'est Paris, donc...
Vous avez suivi l'actualité, il n'y a pas de match de Coupe d'Europe, puisque le président français... Gaël Pelletier a envoyé une lettre ouverte à l'EHF pour demander à ne pas recevoir les Russes du Medvedi
Tchekhov.
Et du coup,
c'est... En soutien au club du
Zaporozhier, qui c'est vrai que le Zaporozhier, qu'on a souvent vu, hein, c'est l'équipe qui a joué le plus de fois contre Nantes, l'équipe ukrainienne, que Nantes n'a jamais battue d'ailleurs. Du coup, il ne se voyait pas recevoir les Russes par rapport à ce qui se passe en ce moment.
Une décision qui l'honore.
Oui, je trouve.
Lui qui était un peu dans la tourmente.
Par rapport à d'autres faits d'actualité, je trouve. Et puis, ça a été accepté. Hein. Tout à l'heure, on a reçu l'acceptation de l'EHF pour ce match reporté, Sinédié.
Et en plus de ça, je remarque, mais le match ne sera même pas rejoué parce que là. Dans tous les sports co et tous les sports disciplines sportives du monde, tous les sportifs russes et biélorusses seraient exclus de toute compétition sportive.
C'est ce qui vient de tomber, par exemple pour la Coupe du Monde de foot où ils sont exclus.
Et pas ce qui est déplorable pour les sportifs,
les athlètes,
ils n'ont rien à voir là-dedans.
On est bien d'accord, mais après c'était aussi par rapport à l'utilisation que faisait Poutine des sportifs russes qui cherchaient à mettre en avant. Pour valoriser son pays, et du coup, c'est un peu le retour de bâton. Hein. Et je voyais un petit message qui disait « Dommage, pourtant, je les avais tous dopés.
» Ouais.
Donc du coup, pour en finir, donc Nantes qui du coup va se déplacer, ça sera vendredi, ce sera Dunkerque à 20h à la H Arena.
C'est parfait, et on enchaîne avec le hockey et la folle semaine des Corsaires.
Exactement, puisque ça a commencé mardi avec la réception des autres Corsaires, ceux de Dunkerque, pour un duel bien sûr qui sentait la poudre. Et à la 10e minute, c'est Mathieu Gagnon qui, d'un boulet de canon, a ouvert le score. Vous avez bien compris où je voulais en venir. Quentin Jacquet qui doublera la mise à la 26e. On se dit, ça y est, c'est fait. Eh ben non, les hommes de Jean Bart décident de revenir. Et grâce à Vizoskis et Dinda, reviennent à deux partout. Mais c'est Ten Brack et Crowder qui se lancent à l'abordage pour donner un avantage définitif aux Nantais. La marque sera réduite à 4-3 par Dinda. Très beau match.
Jean-Bart était un navigateur aussi.
Et justement, c'est pour ça que j'ai fait la référence à Jean Bart, puisque c'était le corsaire de Dunkerque. Et c'est d'ailleurs l'effigie du maillot, c'est un peu son hommage. Du coup, on en profite pour écouter Captain Cédric Custos. Avec Cédric Custos, capitaine des Corsaires, après cette 5e victoire d'affilée, belle perf déjà.
Ouais, ça fait du bien. Les séries de victoires comme ça, comptablement, c'est très agréable. Et pour l'ambiance d'équipe, c'est vrai que depuis le début de saison, on est à la recherche de ce genre de continuité dans les performances, donc bravo aux gars et puis pourvu que ça dure.
Prochain match Mont-Blanc qui est mieux classé que vous, mais derrière il y a aussi des équipes dans les matchs qui vont arriver à battre aussi pour être sûr d'être bien placé en play-off.
Ouais, tout à fait, les objectifs on les connaît depuis le début de saison, on doit aller chercher une place en play-off et être le mieux classé possible, donc enchaîner des victoires c'est important. Là on va au Mont-Blanc, une équipe qui, comme vous l'avez dit, qui est devant. Donc c'est l'occasion de recoller un peu et de rester dans la course aux places d'honneur.
Et qui dit Mont-Blanc dit Yeti. Les Yeti qui étaient deuxième au début février pendant que Nantes était septième. Début de match assez serré. Et c'est Mont-Blanc qui va prendre même l'avantage à la 42e minute 2-1. Et là, les Nantais s'emballent grâce à leur New-Yorkais, Matt O'Shaughnessy. 3 buts, 2 passes décisives. Les Nantais marquent 6 buts en 18 minutes et l'emportent finalement 7-2. Ce qui fait que Nantes passe 4e au classement. Brest est à 50 points, Cholet 48, Montblanc 47, Nantes 41 points. Donc, ça veut dire que les play-offs, c'est assuré. Il faudra essayer de choper la meilleure place. Le prochain match, c'est samedi prochain, le fameux match du Hellfest contre les éléphants de Chambéry. Et derrière, il y aura un déplacement à Tours le 8 et les réceptions de Brest et Montpellier le 11 et le 12 avant d'attaquer les play-offs.
Et tu nous as dit que ça sentait bon les play-offs hein, pour les Corsaires. Hein,
oui, après, je pense qu'ils peuvent rester quatrième, ce qui serait une bonne chose.
On attendra de connaître l'affiche des play-offs. Ça sera dans un peu plus d'un mois. Allez, on passe au volet cette fois-ci et des nouvelles des filles, les passionnantes du VBN.
Je prends la bonne feuille. Oui, facile victoire des passionnantes à Évreux, 3-7-0, 25-14, 25-22, 25-22. Grâce à Jelinkin, une nouvelle fois meilleure marqueuse pour les Nantais. Du coup, au classement, le VBN est toujours troisième. Et au programme, il y aura le match à la maison, la réception de Nancy le 4 à 20h30. Et la réception de Béziers le 8 à 20h, puisque c'est un match en retard à jouer pour Béziers.
Les garçons, alors, semaine contrastée pour eux.
Oui.
Défaite en déplacement pour commencer.
Exactement. Celle-là, je ne l'ai pas notée, pardon.
À Narbonne, il me semble.
Exactement, d'accord, ok. 3-0, je crois.
3-0 pour les boys. 0-3, pardon. Donc, la semaine était mal partie, mais il y avait un déplacement chez le leader dans la foulée.
Exactement, à Montpellier. Alors, leader, parce qu'il manque des matchs à Tours. Hein. Une super victoire des Nantais à Montpellier, 3-7-1 après avoir perdu le premier set 25-22. Et malgré l'absence, faut le noter, du passeur Yannick Bazin et de Adam Bartos, les boys remportent les 3 sets suivants, 27-25, 25-22, 25-19. Belle perf, mais peut-être qu'elle sera inutile au vu des matchs qui restent. Pour aller chercher les play-offs, au classement, les Nantoroséens sont 9e avec 28 points, soit 3 points de retard sur Paris. Et il leur reste au programme, donc le prochain match est samedi à 19h30, la réception du Plessis Robinson à Dugas. Et il restera après 2 matchs en déplacement, Tourcoing et Cambrai.
Ouais, c'est pas encore fait, mais on va les soutenir, les boys. Hein. On espère qu'ils accéderont à ces play-offs. Hein. On rappelle, c'est réservé aux 8 premiers du championnat.
Exactement. C'est pour ça que je te dis que ça me paraît très compliqué. On va essayer d'y aller pour avoir un peu l'impression du Béréno. On va parler d'équipe qui cartonne, qui marche très très bien.
Tu veux me parler de football, toi ?
Je peux commencer par le foot. Allez. J'étais toujours sur un terrain, mais j'avais des poteaux. C'était les poteaux différents. Je vais te parler de rugby. Mais on va attaquer par le foot au Neurodame. La très belle victoire des Nantaises en déplacement à Orléans, 2-1. Nantes qui a mené 2-0 et puis s'est fait peur en fin de match avec le retour d'Orléans. Les Nantes sont donc toujours premières du classement de D2 féminine.
Combien de journées à jouer ?
Il en reste, je crois que c'est 5, mais c'est essentiellement des déplacements.
D'accord.
Du coup, le FC Nantes, 34 points, 2 points d'avance sur le LOSC et le Havre, 32 points. Le RC Lens est 4e avec 29 points. Prochain match, c'est important pour elles parce que c'est aussi de la Coupe de France. Déplacement samedi prochain à Reims pour essayer d'aller chercher une demi-finale. Donc, ce qui serait très très bien si elle pouvait rejoindre les garçons. Entre-temps, on saura si les garçons sont en finale ou pas. Ouais. Et puis derrière, il y aura un gros gros déplacement à Lille qui est son dauphin.
Ouais, certainement pour la montée cette fois-ci.
Tous les matchs vont être pour la montée, hein, je te le dis. Du coup, allez, on repasse au ballon ovale, du coup, et avec nos Nantais du stade Nantais qui se déplaçait au Reus, c'était à côté de Rennes, c'était dimanche. Et ils l'ont emporté difficilement 42 à 37. Il y avait 28-15 à la mi-temps. 7 essais pour les Nantais, 3 essais pour les joueurs du Reus. Et dimanche prochain, à 15h, le stade Nantais reçoit au stade Pascal Laporte son dauphin, le rugby club de Courbevoie, donc 2e au classement. Et il va me rester 2. Si je les retrouve, c'était du basket. Donc je vais vous donner les scores de basket.
Ouais, alors, voilà, l'Hermine ne jouait pas. Hein.
Alors non, l'Hermine donc, jouera samedi à Nancy contre le SLUC Nancy. Et puis, les féminines, par contre, elles jouaient à Strasbourg. Très exactement, Strasbourg, Ilkirch, Grafenstaden. Et elles ont perdu 72-64, les déferlantes. Prochain match, et samedi aussi, c'est à la Troc. Et c'est la réception du BC La Tronche Mêlant.
Et voilà,
cette
rubrique se termine. Tu as été complet. On va passer au reste de l'actu sportive, bien sûr, c'est Multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on attaque avec le rugby, bien sûr, troisième levée du tournoi des Six Nations. La France déplacée en Écosse à Murrayfield pour affronter le 15 au Chardon pour continuer de gagner.
Exactement.
Et de rêver de grand chelem.
Je ne sais pas si tout le monde l'a vu.
On l'a vu, t'inquiète. On a adoré Antoine Dupont, hein. Quelle classe ce joueur.
Quelle relance, il est dans ses 22, il relance et il va amener au premier essai, c'est juste magique. Après, la France a fait peur toute la première mi-temps, puisque la France va mener 12-10 pendant jusqu'à la 41e minute, je crois. Et puis là, c'est Ficou qui est magique, juste avant la mi-temps, qui met un essai superbe en débordement.
Et ça, oui, ils reviennent à 19-10.
Et puis, dès le début de la deuxième, c'est son compère de centre, c'est Danti, qui fait à peu près... Quelle la réussite de ce ballon qui rebondit, qu'il récupère et qui va marquer lui aussi son essai.
Ça, et avec une belle transformation de Jaminet, encore une fois.
Jaminet qui n'aura pas été aussi précis que d'habitude.
Il a perdu un peu de ses stats.
Alors, est-ce que le vent tourbillonnant dans Murrayfield a aidé à ce qu'il ne trouve pas les poteaux? Toujours est-il que moi, j'ai noté, encore une fois, un grand demi-ouverture, Ntamack, très précis, sur ses coups de pied au pied, sur ses coups de pied... Notamment sur le deuxième essai de Penaud.
Oui, oui, sur les deux essais de Penaud, ils font des petits coups magiques qui sont assez magnifiques. Ouais.
Damien Penaud encore, hein. deux essais contre l'Écosse. Hein.
Bon, maintenant, on va se mettre le panneau devant la tête en se disant on est les grands favoris.
C'est ça. Et là,
c'est vrai ou pas?
Sûrement, mais est-ce que là, il nous reste plus égal et finir par le crunch?
Alors, pour gagner le tournoi, je suis globalement d'accord avec vous. On est les seuls qui sont vaincus, on est bien d'accord. Maintenant, pour faire un grand chelem, ça sera autre chose. Hein. Et tu peux appeler Mathieu si tu as un doute sur savoir la motivation des Anglais sur le... Elle n'est pas sur le prochain match, elle est sur le crunch. Et ils vont tout faire pour nous détruire.
Le crunch à Paris, hein. Le match piège, ça serait peut-être celui à Cardiff qu'il va falloir aller gagner. Dans
pour moi, les deux sont des pièges.
Ouais.
Parce que t'inquiète que c'est pas parce qu'il est à Paris que les Anglais vont pas se déplacer et qu'ils seront pas ultra motivés.
Allez,
pour
nous, tu crois qu'on serait pas ultra motivés? Un grand chelem, je crois que ça fait...
2010 le grand chelem, ah, je crois que c'est la victoire.
12 ans. Donc on va avoir les crocs aussi. Mais déjà, effectivement, il va falloir aller jouer ce match à Cardiff. Hein,
Je sais pas, Jérémy, Jean-Marc, Mathieu. Moi, je dis oui, le grand chelem, on l'a.
On a tous envie de voir.
On va le gagner ça.
Après, on dit qu'il ne faut pas avoir la pelouse avant de l'avoir tué.
Et mon grand Seb, qui est dans le Pays Basque, il m'a dit, écoute, Fabrice, vu le match qu'on a fait, on va le gagner.
Oui, mais j'ai envie de te dire oui, mais attention. Et puis, si tu veux gagner la Coupe du Monde l'année prochaine, il faut gagner le crunch cette année. Il faut gagner le crunch cette année. Oui, non, mais on est bien d'accord.
On l'a gagné l'année dernière, le crunch, hein, on est bien d'accord. Hein.
Oui. Non, pas le crunch, il faut faire le grand chelem, je veux dire.
Oui, voilà.
Voilà, je me suis embrouillé, mais il faut faire le grand chelem si tu veux aller gagner le...
Sixième victoire de rang pour cette équipe de France, hein, qui après une super tournée d'automne enchaîne un super début de tournoi, donc on espère que ça va continuer.
Grâce à cette victoire, la France passe troisième au rang mondial.
Troisième, ouais. Donc, les autres résultats du week-end, il y avait un Angleterre-Galles.
Et ça, l'Angleterre qui s'impose 23-19.
Quel match, Jérémy.
Avec un peu de difficulté.
Un peu de réussite quand même, parce qu'il y a pas mal de pénalités et seulement un seul essai des Anglais. Mais un beau match de contact et qui a permis. Les Anglais s'imposaient légèrement face au Pays de Galles.
Mais il n'y a pas eu beaucoup de technique. C'est pour ça que nous les Français, je ne suis pas sur le terrain à jouer. Mais
bientôt, Fabrice.
On peut. Non, jamais le rugby. Mais non, hélas, je n'ai pas mon gabarit. on peut faire quelque chose, je pense.
Oui, voilà.
Une équipe très forte.
Mais il faudra faire quand même attention parce que tous les matchs du Pays de Galles, ils ont merdé tout le monde sur tous leurs matchs grâce à leur tactique de long jeu et rentrer dans le lard et jouer la pénalité. Ce qui a causé du tort à beaucoup d'équipes durant ce tournoi. Donc attention à la France à ne pas arriver trop serein là-bas.
On compte sur Galtier pour les mettre en garde.
Oui, évidemment.
C'est pas...
T'as raison, Mathieu. Galtier devrait faire la part des choses et mettre l'équipe qu'il faut pour...
Ça. Et rester concentré jusqu'au bout.
L'Irlande est toujours dans le coup pour gagner
évidemment.
Le tournoi, puisqu'ils sont à 11 points, la France 14. Donc, comptablement, bien sûr, rien n'est fait. Et avant de parler de Grand Chelem, il faut parler de victoire dans ce tournoi, entendu.
Mais en tout cas, est-ce qu'on pourrait dire que l'Italie fait un Grand Chelem? Parce que là, actuellement, ils sont au niveau de, au terme de points encaissés, ils sont à moins 111.
Oui, après l'Italie, on ne va pas les embêter plus que ça, parce que déjà qu'il y a les Sud-Africains qui veulent leur piquer leur place, les Géorgiens.
Les Sud-Africains pour faire le tournoi.
Oui,
ça m'intéresse.
C'est les nouveaux trucs.
C'est quoi ça?
Ils parlent d'un projet, alors pas forcément pour piquer la place, mais alors si ça passe à 7, déjà qu'il y a des doublons, je ne te laisse pas imaginer.
Oui, d'accord.
Il faudra faire un choix en France, mais c'est soit on fait un tournoi à 6, soit on réduit le top 14 à 12, voire 10 équipes. Et justement, un tout petit mot pour faire plaisir à Fabrice. Une nouvelle victoire du RC Van à Bourg-en-Bresse, 26-9. Ils sont 8e au classement. Ils sont à 3 points de choper les playoffs.
Un début de saison très difficile et tout compte fait, ils se remettent bien.
Exactement. Donc on va croiser les mains pour
aller à la rabine, les soutenir. Allez, on va enchaîner sur le vélo avec les classiques de ce mois de février. On va commencer par celles qui se sont passées en France avec les Drômes Classique et Ardèche Classique. Le week-end autour du vignoble des Côtes du Rhône. Alors, McNulty pour l'Ardèche Classique le samedi. Et le lendemain, c'est Vingegaard, le dauphin de Tadej Pogacar sur le dernier Tour de France, qui aura mis une attaque à 30 km de l'arrivée. Derrière, un bon groupe de chasse avec trois Français pour essayer de revenir. Julien Alaphilippe, le champion du monde. On avait aussi
Guillaume Martin
de la Cofidis.
Et Benoît Cosnefroy.
Ouais, l'écart qui restera toujours entre 15 et 20 secondes pour une victoire de Vingegaard qui bat son compagnon d'échappée au sprint et les trois Français qui ne reviendront pas. Impressionnant le Danois sur cette course.
Et il faut savoir que dans le top 6 du classement général, il y a quand même 5 Français.
Ouais, bon,
c'est 4 Français, excuse-moi.
On enchaîne, alors cette fois-ci, une classique pour les sprinteurs. Jean-Marc, c'était Curneux-Bruxelles-Curneux.
Exactement. Et je te confie la responsabilité d'en parler.
Et
parce
oui.
que je sais que c'est Jacobsen qui a marqué, qui a gagné.
Jacobsen, le Néerlandais qui s'impose, on s'en souvient. C'est lui qui avait fini dans une civière au Tour de Pologne, qui avait été éjecté dans les barrières par Dylan Groenewegen. Et il revient en forme, il s'impose, Jacobsen, le coureur de la Quick-Step. Toujours en Belgique, le Het Nieuwsblad pour Wout Van Aert, très attendu. Eh bien, le champion de Belgique qui s'impose chez lui pour une première victoire cette saison, une bonne prépa avant les grandes classiques de printemps, avec notamment un titre à défendre pour lui sur les Strade Bianche. Wout Van Aert. Voilà pour le vélo. On donne des nouvelles de tennis avec deux tournois, Acapulco et Dubaï.
Et Acapulco, c'est encore The Goat Nadal qui a remporté le tournoi. qui est toujours invaincu en 2022 et qui, faut se rappeler, il y a encore...
Jérémy, 15 victoires d'affilée.
Et qui encore, il y a 5 mois, il est décor à béquille.
Ouais, il s'impose 6-4, 6-4 en finale face à Nori. Et ça continue la saison sur terre battue pour lui cette semaine. À Dubaï, Rublev qui s'était déjà imposé à Marseille, qui double la mise, Fabrice.
Oui, mais... Rublev, mais Medvedev.
Rublev, l'homme en forme. Hein.
Rublev.
J'ai pas vu, on n'a pas vu le match.
Non, mais en tous les cas, voilà. Hein,
et
lui aussi.
Il s'impose 6-3, 6-4.
Il s'impose 6-3, 6-4.
Contre le russe, non, c'est le russe qui a dominé. C'est Vezeli.
Alors, quid des athlètes russes dans les disciplines individuelles?
Ah, là.
Bah là, pour l'instant, sur le sport co, c'est quasiment acté et validé par la FIFA et tous les comités européens de sport co.
Ouais.
Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur les sports individuels.
Ok.
Mais à mon avis, ça devrait...
Oui, après, je pense que... je sais pas, ça va dépendre de la réaction de chaque individu, quoi.
Voilà.
Parce que tu vois Medvedev qui passe...
Medvedev qui a dit qu'il était contre la guerre...
Qui passe premier ATP, en plus.
Il va pas être sanctionné, il est numéro 1 ATP.
Non.
Donc franchement, s'ils sanctionnent, ils vont se mettre une balle dans le pied, l'ATP.
Ça risque d'être compliqué.
Enfin, bon, bref, ça les regarde, mais...
Ouais, affaire à suivre. Qu'est-ce qu'on a pas parlé
du sport auto.
Allez, vas-y. Alors,
moi, je voulais parler du Touquet.
Voilà, je vais commencer par l'enduropale du Touquet et la victoire de Milko Potisek.
Qui a bataillé avec son coéquipier, l'anglais... Kellett, hein. Ça a été chaud. Ils ont fait vraiment parce que ça a été 2h30, 3h à peu près.
3h, un peu plus de 3h.
Un peu 3h. C'est 15 tours, hein, c'est pas beaucoup plus. Hein.
Oui, mais
quand les mecs ils font 2 tours, ils sont contents.
Il fait 20 bords, je crois, le tour.
Ouais, mais quand ils font 2 tours, ils sont contents. Et voilà, 3e victoire pour lui, c'est franchement génial. Son papa l'avait gagné. Mais moi j'ai un truc à dire aujourd'hui. C'est qu'on a la 27e place David Abgral, qui est un professionnel de
que tu connais un
enduro,
petit peu.
Que je connais, qui est de Guidel, à côté de Lorient. Et je le félicite parce que c'est devenu le mentor de mon neveu, Nathan Doudard, qui fait du supercross et qui fait de l'enduro.
Et qu'on verra bientôt à l'enduro.
Bientôt à l'enduro du Touquet, je pense, dans 2-3 ans, parce qu'il a 15 ans pour l'instant.
Du coup, c'est une belle histoire.
Mais il met des piges à David Abgral, déjà.
Ah oui,
c'est déjà bien.
Donc c'est pas mal. Donc on le reverra dans quelques années. Et voilà. Et par contre, magnifique Victor de Yamaha, parce qu'il n'y a rien à dire. Ils sont. Il y a 4 bécanes, je crois, sur les 10 premiers. Il y a 2 Honda ou 3 Honda et 2 KTM. Donc, il n'y a rien à dire. C'est une sorte de famille au Touquet là-bas. Et l'année dernière, il y avait eu un petit peu. Voilà, il n'y a pas eu. Et donc, ils attendaient que ça. Et 300 000 spectateurs, c'était
impressionnant. C'est ça. C'est qu'ils ont pu le refaire devant des spectateurs. Et c'était vraiment bien. Un autre mot de sport, c'est la victoire de Kalle Rovanperä qui s'impose au rallye de Suède, profitant de l'absence des deux Sébastien.
Après, son papa aussi.
Qu'avait gagné.
21 ans après sa seule victoire.
Exactement.
C'était, beau, ça. C'était à l'époque de l'Obs, ça encore. Non
ouais, ouais.
Au début, au début.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Harry Rovanperä, son papa.
Parfait.
Et je suis content que tu l'aies dit avant moi. Parce que j'aurais très mal prononcé, moi.
Allez, après les JO, les biathlètes ne sont pas revenus dans leur compétition. Par contre, les skieurs alpins, oui. On était à Garmisch pour le doublé pour Henrik Christophersen qui s'impose sur les 2 slaloms ce week-end. Pas de podium pour Clément Noël, le champion olympique. Et un mot de golf, on jouait le Honda Classic hein, sur le PGA Tour. La victoire qui revient à l'Autrichien Sepp Straka. Des nouvelles de Paul Barjon, bah, Paul ne passe pas le cut malheureusement. Et
du coup il se retrouve combien de
on va regarder ça, mais il est plus tellement dans le coup pour les playoffs de la FedEx Cup. On rappelle, c'est très difficile pour lui qui découvre le circuit américain cette année. Bah, si vous avez d'autres infos, c'est le moment.
J'ai le petit quiz si vous voulez.
Eh ben, on y va, j'envoie le retour du jingle et on va jouer. C'est le quiz.
Money Time. Chaque semaine, on se divertit. Chaque semaine, on se quiz.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Bon, je sais, bonsoir. On va faire un petit quiz, mais je sais que j'ai des professionnels en face de moi. Donc, première question, quelle différence y a-t-il entre la Juventus de Turin et le Torino ?
Outre la couleur, la Juventus est plus appréciée en dehors de Turin que le Torino.
Voilà.
Et Torino était une grande équipe jusqu'à l'accident de Superga et la perte de toute l'équipe qui était aussi l'équipe nationale d'Italie.
Alors, c'est pas ça. La vraie histoire.
Non.
La Juventus de Turin, c'était les patrons de Fiat.
Oui.
Et le Torino, c'était les ouvriers.
Bien. Ok. D'accord. Ah oui, d'accord.
Bravo.
D'où la petite rivalité qui est...
Voilà, tout à fait.
Merci,
deuxième question. Qui est le dernier joueur français à avoir été le meilleur buteur dans le championnat anglais en 2008-2009?
Thierry Henry. Nicolas Anelka.
Bravo, Jean-Marc. Ah, oui. Nicolas Anelka, évidemment.
Chelsea.
Thierry Henry était avant, mais Anelka, c'est le dernier joueur français.
C'est ça. Et c'était à Chelsea qui c'était pas
ouais.
Mal.
Voilà.
Exact.
Kate Pilote, né en 1945, a remporté 6 fois les 24 heures du Mans.
Jackie X. Jackie X.
Jean-Marc, mais arrête, c'est bon, quoi. Tu délis mes questions, quoi.
Ah, non, non.
Non.
Alors, il est deuxième derrière Tom Christensen, qui a gagné 8 fois le Mans.
Mais lui, c'est plus récent, par contre.
Oui. Bon, ça, c'est une question pour Mathieu, qui est facile, hein, pour tout le monde, elle est facile. Hein. Quel coureur n'a jamais porté le maillot jaune en 15 participations au Tour de France?
Oui.
Poulidor.
Pas mieux.
Jean-Marie, et puis Vissi après. En 2010, quelle équipe a remporté la Coupe du Monde en Afrique du Sud?
Espagne.
Oui.
Exactement. Wow. Grâce à qui? Iniesta.
But d'Iniesta en finale.
Ouais, Iniesta, ouais.
Quel fut le titre du journal L'Équipe au lendemain de la victoire de la Coupe du Monde de foot des Français?
Laquelle?
98. Le titre de l'équipe.
Monumental.
Non.
Phénoménal.
Non.
Non, c'était
immense. Bleu, ça, blanc, rouge.
Vous avez les demi-finales. Alors, Monumental, c'était la demi-finale.
Ah, j'ai un doute. C'était
exceptionnel, incroyable.
Grandiose.
Au lendemain de la victoire. Au lendemain
on
de
peut,
la victoire.
On peut mourir tranquille.
Non, ça c'était Thierry Roland.
Ouais, je le vois. Incroyable, pour magistral.
Non.
Magnifique.
Non.
Ah, je sais plus,
bleu, blanc, rouge, je sais pas, tous unis.
Non, c'est, il me semble, c'est un truc que c'était comme gravé à la vie. Gravé à la
t'es
vie,
pas
comme
loin,
ça,
Jérémy, t'es pas loin, t'es pas loin.
Pour l'éternité.
Pour l'éternité.
Exactement. Ah, oui. Pour l'éternité. Voilà.
Ça y est, je le vois maintenant. Pas mal comme titre.
Il y avait, il y avait Petit en couve quand il se mettait sur les costumes.
Exactement,
sur les
ouais. Quel joueur de foot français s'est ennuyé Petit Vélo?
C'est Mathieu Valbuena.
Mathieu Valbuena, ouais.
Bravo. Il y a rien à dire. Quel pilote de Formule 1 a remporté le chemin du monde en 88, 90 et 91?
Senna.
Bravo les gars. Là, c'est une question plus pour Mathieu. Ou je sais pas, peut-être que Jean-Marc était au point aussi.
Et ça se trouve, c'est Jérémy.
Jérémy qui va répondre. Quel boxeur argentin né en 1942 était
Carlos Monzon.
Exactement. Ouais, il est trop fort, il est trop rapide.
J'ai pas fini ma question.
Bon, à vous, c'est le seul boxeur argentin que tu connaisses.
Ouais, de cette trempe-là, oui, après.
Et quel pilote a donné son nom au Grand Prix du Canada?
Gilles Villeneuve.
Et son fils lui a rendu un sacré hommage en remportant le championnat du monde en 96.
Exactement.
C'est ça.
96 ou 97.
C'est 96, c'était en 97, c'était dû à un accrochage de volontaire de Schumacher qui après a été
déclassé, puni.
Eh bien messieurs, bravo. C'était un
bravo Jean-Marc, tu remportes ce quiz.
Oh oui, je pense que Jean-Marc l'a remporté.
Et du coup, il nous reste 2-3 minutes.
Je sais pas si vous n'êtes pas ex-aequo d'ailleurs.
2-3 minutes pour parler de votre pronostic pour cette demi-finale de mercredi entre le FC Nantes et l'AS Monaco et alors, l'occasion de retourner au Stade de France. La dernière fois, c'était en 2004.
Quel plaisir, Jean-Marc, ce serait d'y aller. Mais maintenant, voilà, je pense que Combaré, qui était absent sur le banc à Metz, a fait sortir Blas et Colomani, à la 72e, je crois.
Oui.
Et je pense qu'il a été intelligent pour les préserver. Il veut vraiment jouer ce match à fond. Je pense que c'était prédit depuis le mois de décembre, janvier, en disant, voilà, bah, tout compte fait, cette année, on n'est pas si mal que ça.
C'est ça.
Ils nous font un titre. Et le titre, c'est une Coupe de France. Ce serait génial. Ce serait génial.
Du coup, moi, le score, du coup.
Du coup, le score.
De mercredi,
moi je dirais 3-1 pour Nantes.
3-1, allez, jeudi 2-2, prolongation.
Et on note.
Tir au but, 4 tirs au but à 2 pour Nantes.
Et moi je vois bien tout simplement un 2-0 pour Nantes.
2-0, ah, d'accord. Notez votre petit truc, ouais, chacun.
Ça hein. marche. On voit
et
ça.
Et ben moi je vois un 2 buts à 1. Pour Nantes, un doublé de Randal Kolo Muani.
On espère que Nantes ira au Stade de France.
Ça serait mérité. Quand je vois la dynamique et la mentalité des équipes, façon au niveau de jeu et cohésion d'équipe, Nantes part sans avantage.
Et ça montrerait aux yeux de tout le monde ce qu'a accompli Antoine Comboiré en arrivant à la mi-saison, la saison dernière.
Ouais. Ça. Parce qu'il est arrivé, il a pris dans les mains un club qui était, on va dire, les mots forts, relégable et en ruine, au niveau de la motivation, au niveau de tout. Il a même volontairement mis des joueurs à la trappe et certains de ces joueurs-là sont quand même remontés en pro.
Exactement.
On fait le point sur le FC Nantes lundi prochain en espérant une bonne nouvelle à vous annoncer pour les jaunes et verts. Allez, il est 20h, on va laisser la place à nos potes de passage en force, c'est de la NBA.
Allez, salut à tous.
À lundi prochain, ciao.
Bonne soirée, merci. Ciao. Allez Nantes.